qu'on va d'abord essayer de dire aux auditeurs quelle est votre vision du monde et peut-être partir par un point qui a attiré votre attention dans l'actualité, l'actualité française, la question des jobs précaires avec donc cette contestation sociale qui aura lieu demain. Vous appelez ça des bullshit jobs. Je pense que je n'ai pas besoin de traduire. C'est quelque chose d'assez évident. Et nous dire quel est votre point de vue sur cette question qui est une question qui vous a beaucoup occupé, David.
Well, I'd always had a suspicion that a lot of work is unnecessary.
Suspecter le fait que beaucoup de choses que l'on fait, beaucoup de travaux, beaucoup d'emplois sont inutiles.
You could say that it goes back to my own anarchist origins
because à mes origines anarchistes personnelles.
My father fought in the Spanish Civil War. He was in the International Brigade.
Combattu dans les brigades internationales lors de la guerre d'Espagne.
And he was in Barcelona during the revolution.
Il était à Barcelone. À l'époque révolutionnaire.
And one of the things they did there in
et une des choses qu'ils faisaient à cette
firms,
époque-là,
they just got rid of all white-collar workers.
Ils ont découvert qu'il n'y avait pas de différence en fait entre l'école blanche et l'école bleue.
Really
la plupart de ces gens-là ne faisaient pas grand-chose l'école blanche en fait.
And I kept meeting people now
et
that
j'ai
I'm,
rencontré beaucoup de personnes
maintenant
que je vis dans un environnement plus bourgeois et je leur pose des questions, mais qu'est-ce que vous faites
really.
Et ils sont un petit peu embarrassés et leur réponse est en fait on fait rien.
Moi j'ai ce boulot
au bureau, mais en fait je produis rien, je fais rien.
And I wondered how common is this.
So I wrote a little. Je me suis demandé à quel point c'était quelque chose qui existait, qui était largement diffusé. Et j'ai fait cette recherche. J'ai écrit ce petit bouquin sur les bullshit jobs.
I thought to myself, well, maybe that's the reason we're not actually working a 15-hour week.
C'est peut-être la raison pour laquelle on ne travaille pas ces fameuses semaines de 15 heures.
Keynes famously predicted
we would John Maynard Keynes avait prédit qu'on devrait être capable de ne travailler plus que 15 heures par semaine aujourd'hui. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'on aurait pu éviter de travailler grâce à la mécanisation et vivre que 15 heures par semaine, travailler que 15 heures par semaine. Mais bon, il faut aller employer les gens.
Est-ce que l'on peut dire, David Graeber, que pour vous, la notion même de bullshit job, c'est le signe qu'il y a une hiérarchie dans la société qui est faite entre des gens très importants, qui sont par exemple les grands patrons, en France on dit les premiers de cordée, et des individus qui, eux, ont des jobs interchangeables, qui conduisent par exemple des voitures Uber. Et vous, vous remettez en cause cette hiérarchie?
Well, of course I am, but
bien
this,
sûr que je la questionne, mais c'est un niveau différent, parce qu'il y a une hiérarchie d'emploi. Il y a toujours eu un degré où un certain nombre de travaux, d'emplois les plus payés, les mieux payés étaient non nécessaires.
Even more in recent years,
mais
there's been a multiplication of these intermediary jobs.
Au cours des dernières années, il y a une multiplication de ces boulots intermédiaires.
You see this in universities
on le
very
voit
clearly.
Dans les universités de façon très claire.
The number of administrative
le
staff,
nombre de personnel administratif, ce n'est pas les administrateurs, mais les gens qui travaillent pour les administrateurs, a triplé au cours des 20 dernières années.
Donc,
soudain, toute personne importante à l'université, ce n'est pas des professeurs, ce sont des administrateurs, automatiquement à 5 assistants.
And then they make up something for them
et puis, il faut inventer quelque chose pour leur donner du boulot.
That means professors like me have to spend
que des professeurs comme moi passent de plus en plus de temps à remplir des questionnaires et des feuilles.
Alors, justement, vous êtes professeur, ça n'a pas toujours été simple. Vous avez été viré d'une fac, vous n'avez pas eu ce qu'on appelle la tenure alors que vous deviez l'avoir. Et on a considéré que le fait que vous ne l'ayez pas pouvait être un règlement de compte politique, David Graeber, que vos idées ne plaisaient pas. Mais justement, comment vous concevez aujourd'hui ce rôle de professeur, d'intellectuel, puisque je l'ai dit en introduction, dans le monde anglo-saxon, vous êtes une conscience écoutée et vous vous êtes exprimé sur des sujets d'actualité. Quel est votre rôle aujourd'hui, selon vous?
Well, I think that my role today is to
je pense que
give
mon rôle aujourd'hui est de donner une voix pour des perspectives qui autrement ne seraient pas prises au sérieux. J'ai poursuivi deux carrières, une carrière universitaire où j'écris beaucoup de choses sur les rituels mortuaires à Madagascar, des sujets anthropologiques classiques, et une autre carrière où je m'intéresse aux questions sur des personnages importants dans les mouvements sociaux. Donc j'applique les outils de l'université, les outils de pensée pour répondre à des questions qui sont importantes pour des gens qui tentent de changer le monde. Quel est le pouvoir de certains arguments? Pourquoi est-ce que les gens prennent au sérieux cette notion de dette? Pourquoi est-ce que des gens travaillent beaucoup dans des emplois qu'ils n'aiment pas, etc.?
Et alors justement, c'est pour ça que c'est important que vous soyez un anthropologue, parce que les anthropologues, ils observent sur la longue durée comment des comportements qu'on peut penser inhérents à la nature humaine, comme par exemple les échanges, le troc, la vision donc de s'endetter vis-à-vis d'un autre sont des choses ou pas naturelles. Et alors finalement, votre regard, il est très original parce que vous considérez que des choses qu'on prend comme évidentes doivent être mises en cause. Je vais en donner un exemple, l'État. Par exemple, pour vous, l'État, à la suite d'un anthropologue français dénommé Pierre Clastres, c'est pas forcément une évidence. Expliquez-nous pourquoi, David Graeber.
Mais il y a deux choses que les anthropologues, auxquelles les anthropologues doivent contribuer. La première, c'est qu'on assume que s'il n'y avait pas d'État, s'il n'y avait pas un appareil de contrôle, la police, les cours, les tribunaux, la prison, chacun commencerait à tirer sur l'autre, à se tuer. Et ça serait du chaos, voilà. Les anthropologues savent que, de façon empirique, que ce n'est pas le cas, que ça se produit dans beaucoup d'endroits où la police disparaît, où les gens n'ont jamais entendu parler de police, et que les gens ne se conduisent pas comme des assassins. Donc il faut se poser la question, ça veut dire quoi de vivre dans un régime étatique qui nous fait penser que c'est comme ça qu'on doit vivre?
Et ce qu'explique David Graeber, ce qu'explique Pierre Clastres, qui est donc l'une de vos sources d'inspiration, c'est qu'en fait, si pendant un certain temps il n'y a pas eu d'État, c'est peut-être parce que les hommes s'étaient débrouillés pour qu'il n'y en ait pas. Et c'est ça qui est repris dans votre travail, parce que vous dites finalement, on s'accommode très bien d'une situation où les individus vivent sous le joug d'un État, parce qu'on considère que les civilisés doivent avoir un État, mais avant, des gens qui étaient tout aussi civilisés que nous, s'étaient parfaitement débrouillés pour s'auto-gérer.
Absolutely.
And in tout fact, à fait.
My own work now, I have been
mon propre travail, je travaille avec David Wincrow, qui est un archéologue, a montré que Clastres avait encore plus raison qu'il ne le pensait. Si on regarde l'époque paléolithique, par exemple, il y avait des signes de hiérarchie, des choses qui ressemblaient à un État, mais elles étaient isolées, ça ne menait à rien. C'était comme si les gens jouaient avec cette idée, comme un théâtre, comme un fantasme, avant que ça n'existe dans la réalité. À travers l'histoire, les gens faisaient des allers-retours entre différents statuts sociaux. Donc, il pouvait y avoir un État pendant quelques mois de l'année, puis après, et il le mettait bas.
Donc ça, c'est la première idée fausse que vous combattez. On a forcément besoin d'un État. Et puis l'autre idée fausse que vous avez combattue, c'est la dette. On dit, les pays pauvres doivent rembourser leur dette parce qu'ils ont contracté leur dette. Et c'est important dans l'existence de payer ces dettes. Vous n'êtes pas d'accord? Expliquez-nous pourquoi, David Graeber.
Well, a debt is a promise.
La dette, c'est une promesse. On peut dire que la morale entière n'est faite que de promesses.
Mais
la dette, c'est la perversion d'une promesse. C'est une promesse qui a été compromise par l'addition de mathématiques et de violence. Si moi, je vous promets quelque chose, je vais vous rencontrer, par exemple, cet après-midi à 17h. Et puis ma mère mère meurt.
Donc,
évidemment, vous ne vous attendrez pas à ce que je sois là. Mais à partir du moment où on transforme cette promesse en dette, ça devient quelque chose d'inaliénable. Il est impossible de dire, il est impossible d'ignorer le contexte dans lequel cette promesse a été faite. Et on peut transmettre cette promesse à d'autres personnes. C'est ça l'argent, c'est la transférabilité des promesses.
Et vous avez beaucoup milité dans un mouvement qui a été largement commenté ici, évidemment, outre-Atlantique, le mouvement Occupy Wall Street. Êtes-vous alors l'inventeur de ce terme des 99%, David Graeber?
The phrase the 1% was in the air.
La phrase du 1% des 99% était dans l'air. Et moi, j'ai suggéré que le 1% soit renversé, en fait. Parce que lorsque le mouvement a débuté, on s'est posé la question, qui sommes-nous? C'est les questions pré-révolutionnaires aujourd'hui. Personne ne croit en ces rôles historiques du prolétariat, on n'y croit plus. Alors, si on se rebelle, alors au nom de qui on se rebelle? Et notre analyse était à la fois économique et politique. On a réfléchi sur ce 1% qui possédait, pas simplement comme cette partie de la population qui avait réussi à engranger tous les profits de la croissance économique, mais c'était aussi les gens qui payaient pour les campagnes électorales. C'était les gens qui pouvaient transformer la richesse en pouvoir et retransformer le pouvoir en richesse. Mais alors, et voilà. Et nous sommes donc les 99%.
Mais alors quand vous dites « nous sommes les 99%, », est-ce que vous êtes anarchiste ou tout simplement démocrate, puisque vous considérez finalement que l'Amérique est devenue une plutocratie, qu'elle est gouvernée par l'argent, que l'argent permet d'acheter la démocratie et par conséquent qu'il n'y a pas véritablement de gouvernement par le peuple, pour le peuple. Est-ce que c'est un point de vue anarchiste ou tout simplement une volonté de militer en faveur d'une véritable démocratie, David Graeber ?
Je ne
sais pas s'il y a une grande différence entre les deux. Si on regarde les discussions et les débats autour de l'écriture de la Constitution américaine, ils ont utilisé le mot anarchiste et le mot démocrate de façon interchangeable. Les gens qui ont créé la Constitution américaine pensaient que l'anarchie et la démocratie, c'était la même chose. Ces gens ne se rendaient pas compte que dans la Constitution, dans la Déclaration d'indépendance, ça ne dit rien sur l'Amérique. Il n'est jamais dit que l'Amérique était une démocratie. Les fondateurs de la Constitution américaine, c'était des démocrates. Ils le disaient d'eux-mêmes, mais ce n'est pas dans le texte. La démocratie, c'était la règle et la loi du plus grand nombre. Et c'est exactement ce que nous tentons de faire.
Mais alors, en France, on considère que la démocratie, elle est l'émanation de l'État, que cet État a une bureaucratie. En France, on appelle cela l'administration. Et on tient beaucoup à notre administration parce que on considère que c'est une manière, en quelque sorte, de pérenniser l'action de l'État, alors même que les politiques sont fluctuantes, que les politiques ont parfois des intérêts à court terme. Vous n'aimez pas tellement la bureaucratie, vous lui avez consacré un livre, David Graeber, et vous considérez que c'est un phénomène dont il faut se méfier. Expliquez-nous ce que vous reprochez à la bureaucratie.
Vous savez, les règles impersonnelles devraient-elles exister dans une société complexe? Ce que j'essayais de faire et sur quoi je tentais d'attirer l'attention sur la bureaucratie, dans mon livre sur la bureaucratie, c'est que les bureaucraties privées et publiques sont devenues interchangeables. Elles se sont mélangées. Il y a eu ce changement économique profond depuis les années 80. Où on peut faire aucune distinction entre administration publique et administration privée. Donc c'est devenu le moule d'extraction du pouvoir sous le capitalisme. Prenez par exemple les banques. Si une banque vous impose des questionnaires sans fin, si vous plaignez à la banque, ils vous disent « Ah ben non, ben on est lié par les règlements de l'État et on ne peut pas faire autre chose. » Mais regardez d'où viennent ces règlements. Ces règlements ont été émis par les banques elles-mêmes. Donc, alors, qu'est-ce qui est gouvernement, qu'est-ce qui est privé? C'est pas clair. D'un autre côté, on découvre aussi que la plupart des profits des banques proviennent des pénalités qui vous sont imposées et des taxes. Donc, ils ont leur propre système de justice pour vous imposer des pénalités. Et c'est comme ça que ça fonctionne.
Mais dans quelques instants, il y aura le journal de 8 heures, David Graeber. Et dans ce journal, on va par exemple revenir sur ce scandale qui aujourd'hui a éclaté. Facebook aurait directement ou indirectement aidé Donald Trump à être élu. Alors, est-ce qu'on peut considérer maintenant qu'il y a une sorte de collusion, objective ou non, entre ces grandes entreprises et le pouvoir politique aux États-Unis?
Totalement. Le système politique américain est essentiellement c'est des dessous de table et de la corruption organisée. La seule raison pour laquelle il y a des index, des indices de corruption et que des pays africains arrivent en haut et les États-Unis en bas, parce que c'est pas illégal aux États-Unis de donner de l'argent pour les campagnes électorales. Donc c'est très difficile de dire que l'Amérique est corrompue.